Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Jeudi dernier, le Premier ministre Gabriel Attal a réaffirmé son engagement dans la lutte contre la violence des jeunes alors que le mois d'avril a été marqué par une série de graves agressions, du passage à tabac de la jeune Samara à Montpellier au meurtre de Chemseddine, 15 ans en Essonne. Que se passe-t-il au sein de la jeunesse française? Nos adolescents cèdent-ils plus facilement à la violence que leurs aînés? Bonjour Thomas Vaud-Sauvadet.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est. Vous êtes spécialiste des bandes de la violence chez les jeunes. On vous doit notamment Voyoucratie et travail social, enquête dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est aux éditions du Croquant. Alors quand vous observez ces différentes affaires qui ont eu lieu en avril, la mort d'un jeune de 15 ans, l'agression extrêmement violente d'une jeune fille de 13 ans, bref, qu'est-ce que ça suscite en vous ?
Ça me souvent, la plupart de ces faits divers sont en grande partie liés aux bandes de jeunes dans les QPV. Donc quartier de la politique de la ville. Donc c'est une minorité en fait de la jeunesse, notamment masculine, dans les quartiers pauvres, les quartiers chauds, qui sont classés donc dans la politique de la ville. Et donc c'est souvent le cas. C'était Sébastien Rocher qui parlait de que 5% des mineurs interpellés étaient responsables de plus des deux tiers des délits, des crimes juvéniles. Donc on a vraiment une minorité, un noyau dur qui est surreprésenté dans la justice des mineurs et dans ce type de faits divers. Et c'est sur cette minorité que je travaille depuis plus de 20 ans.
A-t-on affaire à une augmentation de la violence dans cette minorité-là, même s'il doit être compliqué de savoir ce qu'étaient les quartiers prioritaires de la ville il y a 50 ans ?
Oui, on a une évolution à différents niveaux qui sont souvent séparés par l'actualité médiatique, par les faits divers. On a la question des bandes de jeunes, des bagarres de bandes, la question des règlements de compte, parfois à petite échelle, parfois à plus grosse échelle avec le trafic de stupéfiants, et la question des émeutes. Et sur ces différentes dimensions, on voit une évolution avec davantage de violence sur fond de chômage. On a notamment des vieux jeunes qui développent une criminalité qui est plus financière, économique, liée au trafic de stupes.
Vieux jeunes, c'est ?
Des vieux jeunes, c'est entre 20 et 30 ans qui sont dans ces bandes de jeunes depuis les années 80-90, c'est-à-dire depuis que on a eu la désindustrialisation, qu'on a eu le chômage, et donc on a des jeunes qui ont du mal à sortir de cette minorité, alors qu'autrefois, notamment avec les blousons noirs, entre 18 et 20 ans, c'était terminé, avec l'entrée sur le marché du travail, le service militaire, etc. Et on a donc une délinquance, une criminalité qui se développe, et avec des plus jeunes, des adolescents, voire des enfants qui sont exposés, qui grandissent autour de ces activités.
Voilà, parce que ce qui frappe là, alors bien entendu, il s'agit de 4 cas et donc il ne faut pas nécessairement généraliser. C'est à vous, Thomas Sauvadet, de me dire si on a affaire à un échantillon hélas représentatif. Mais là, il s'agit de jeunes jeunes.
Oui, on a aujourd'hui dans les quartiers pauvres, dans les quartiers chauds, dans la rue, des enfants, donc entre 6 et 10 ans, des adolescents qui grandissent dans des quartiers où vous avez des voyous qui sont les patrons, qui font la pluie et le beau temps, et donc c'est ils sont influencés par cette jeunesse de vieux jeunes qui sont dans les trafics. Souvent ils les prennent pour modèles, ils gravitent autour, ils les imitent. Et d'ailleurs il y a toute une culture de rue qui s'est aussi développée et qui s'est orientée du côté du banditisme. On le voit notamment avec la drill, qui est le nouveau gangsta rap d'aujourd'hui. On a des voyous qui tiennent le haut du pavé dans ces quartiers-là, et on a une culture de rue orientée vers la délinquance, vers la glorification du banditisme, qui a aussi pris une dimension industrielle, une industrie culturelle, et on retrouve aujourd'hui les codes de cette culture culture de rue, y compris dans les beaux quartiers, y compris dans des villages où on a des jeunes qui vivent leur crise d'adolescence sous le registre de ces codes des jeunes des bandes des QPV.
Donc vous diriez que cette culture de la violence, elle s'est transformée, elle s'est aggravée par rapport à ce que l'on pouvait voir auparavant?
Oui, elle s'est aggravée, on le voit au niveau culturel avec l'évolution de certaines pratiques artistiques, de certains genres musicaux, notamment le gangsta rap. On le voit très clairement au niveau des émeutes. Donc les émeutes de l'été dernier ont vraiment montré qu'il y avait un changement de cap. On le voit au niveau du trafic de stupéfiants et des règlements de compte dans des villes qui sont pas Grenoble, qui sont pas Marseille, des villes comme Dijon par exemple, où les gens ne sont pas habitués à ce type de faits divers. On le voit dans les bagarres de bandes où on a une sorte de méthodologie de la violence, avec des guet-apens qui sont parfois assez sophistiqués, l'usage des réseaux sociaux aussi qui permet
J'allais en venir là, parce que l'un des points communs de ces quatre faits divers tragiques, ce sont les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux qui servent de caisse de résonance à cette culture de rue, avec des agressions qui sont souvent filmées, qui sont souvent diffusées. D'ailleurs, il y a des policiers qui travaillent directement sur ces vidéos qui sont postées sur Snapchat ou TikTok pour mener leurs enquêtes. Des réseaux sociaux qui servent aussi à organiser, on l'a vu au moment des émeutes, et qui servent aussi à provoquer. Et donc à exercer du harcèlement avec une médiatisation dans les établissements scolaires, dans les quartiers, où ça donne une caisse de résonance. Il y a beaucoup plus d'adolescents qui sont au courant de ce qui se passe et qui s'intéressent à cette actualité de la rue, en quelque sorte.
Et on a affaire, là aussi, à des faits divers. Alors, on l'a dit, médiatisés par les réseaux sociaux, qui sont donc généralement fabriqués même par ces réseaux sociaux, comme vous l'expliquez, Thomas Sauvadet, et qui n'ont pas véritablement de lien avec, j'allais presque dire, qui n'ont pas de lien autre que la recherche de la violence pour la violence. C'est-à-dire, là, il ne s'agit pas en fait de vol, il ne s'agit pas donc de s'enrichir, il n'est pas question de trafic de drogue, il n'est question que de violence.
Oui, alors il faut aussi comprendre que les jeunes qui grandissent dans ces quartiers, ou ceux qui les imitent et qui sont souvent autour de cette jeunesse-là, qui gravitent autour, dans ces quartiers-là, vous avez une rupture ou du moins une distanciation très très importante par rapport à la police et la justice. Il y a peu de témoins, peu de dépôts de plaintes. Et le titre de ma thèse, donc en 2006, c'était le capital guerrier, c'est-à-dire que dans des milieux sociaux où il y a une déconnexion par rapport à la police et à la justice, il y a une recherche de capital guerrier. Et donc tout acte de violence n'est pas simplement un acte de violence, c'est aussi un acte qui construit une réputation, qui dissuade, qui intimide et qui permet d'évoluer dans un milieu où l'autodéfense est très importante, puisque en général les victimes ne portent pas plainte.
Alors, j'ai dit que ces actes violents n'avaient pas d'autre cause que la violence. Je me suis peut-être un peu trompé, parce que dans le premier cas, la mort de Shemseddine, il était question en fait d'un crime d'honneur, puisque cette jeune fille a été accusée par ses autres, j'allais dire camarades, ce ne sont pas ses camarades puisque ce sont ses tueurs, mais ceux-ci ont considéré, pour le dire en une phrase, qu'elle ne se comportait pas comme une bonne musulmane.
Oui, alors effectivement, il peut y avoir une dimension d'intégrisme religieux hein, dans ces violences-là, qui sont aussi souvent le fait d'individus qui n'ont pas de protection policière, judiciaire, soit parce que du fait de leur origine. Donc on peut penser par exemple à l'immigration afghane, où il n'y a pas d'État, il n'y a pas de protection policière et judiciaire, c'est la vendetta, c'est la vengeance qui sert à régler ses comptes. Et aussi pour des populations qui vivent dans des quartiers pauvres, où il y a très peu de signalements, très peu de témoins, très peu de dépôts de plaintes. Et donc ce qu'on appelle crime d'honneur est en fait lié au machisme, est en fait lié à l'absence de protection étatique, policière et judiciaire, et à la nécessité de développer des capacités de violence. Certains jeunes développent de manière assez mesurée et savent utiliser cette violence et ce capital guerrier de manière assez compréhensible, assez cadrée, avec une certaine mesure. Et d'autres peuvent, à un moment donné, basculer dans l'extrême violence pour un motif futile.
Mais alors, cette dimension identitaire ou religieuse, elle est complètement nouvelle, j'imagine.
Oui, cette dimension religieuse, elle se développe à partir des années 90, dans des quartiers qui ont de plus en plus une population, notamment de religion musulmane, dans des quartiers qui sont aussi où la religion sert aussi à se protéger par rapport au développement de cette délinquance de rue. On voit des adolescents, on voit des parents qui investissent beaucoup la religion, sans le dire pas souvent, mais aussi comme une forme de protection éducative par rapport aux mauvaises fréquentations. Donc, surinvestir la religion, surinvestir aussi les clubs sportifs, c'est souvent pour des adolescents et pour des parents un bon moyen d'éviter que leurs enfants traînent avec les mauvaises personnes et rencontrent les mauvaises personnes dans la rue.
Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne solution.
Non, malheureusement, oui.
C'est ce que l'on voit, hélas, dans ces faits divers tragiques. Thomas Sauvadet, Voyoucratie et travail social, enquête dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est le livre que vous avez publié aux éditions du Croquant. Vous serez rejoint dans quelques minutes par Muriel Aiglin. Elle est présidente du tribunal pour enfants de Bobigny. On cherchera à comprendre s'il y a une manière, avec la réponse pénale, de tenter de juguler cette violence que vous voyez croissante chez les jeunes.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et oui, on vous l'a rappelé, jeudi dernier, le Premier ministre Gabriel Attal a réaffirmé son engagement dans la lutte contre la violence des jeunes, alors que le mois d'avril a été marqué par une série de graves agressions. On en a parlé avec le sociologue Thomas Sauvadet, qui est avec nous, qui a notamment publié « Voyoucratie et travail social », enquête dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville aux éditions du Croquant. Et nous accueillons Muriel Aiglin. Bonjour. Muriel Aiglin, vous êtes présidente du tribunal pour enfants de Bobigny. J'ai presque envie de vous demander en quoi la justice pour les mineurs est-elle différente de la justice pour les majeurs, puisque votre quotidien est un quotidien que nous ignorons beaucoup. Et donc, nous avons besoin de savoir en quoi votre justice se distingue de celle pour les majeurs.
Bonjour. Alors, je voudrais juste me présenter et préciser que je suis également vice-présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, qui regroupe des juges des enfants de toute la France. C'est important, parce qu'on est sur un débat qui est national et qui ne concerne pas que le tribunal pour enfants de Bobigny. Alors, le rôle du juge des enfants en France et pourquoi la justice des mineurs est-elle différente de la justice des majeurs? Eh bien, tout simplement parce que la justice des mineurs s'adresse à des adolescents qui sont des êtres en construction. Et entre l'âge de 13 ans, qui est l'âge à partir duquel il y a une présomption de responsabilité pénale, et l'âge de 18 ans, âge de la majorité pénale, chacun peut constater que nos adolescents évoluent de manière extrêmement importante. D'ailleurs, la science nous dit que le cerveau de l'être humain change de manière absolument importante à deux périodes de la vie, dans les trois premières années de la vie et pendant la période de l'adolescence. Et on sait également que le développement du cerveau des adolescents fait que le développement pulsionnel précède le développement de la capacité de contrôler ses pulsions. Donc on est par nature à l'adolescence dans une période à risque. Et c'est aussi à l'adolescence que les questions de scolarité, d'insertion sont les plus importantes. Et c'est à cette période-là de la vie qu'on apprend le plus. Et donc la dimension d'éducation est absolument fondamentale. Parce que un certain nombre d'adolescents n'ont pas acquis certaines règles ou n'ont pas encore compris comment contrôler leurs pulsions quand ils ont envie de transgresser. Et la justice des mineurs est là pour les accompagner dans ce cheminement. Alors ce qui est important, c'est de savoir que la justice des mineurs, justement, elle s'adapte à l'adolescent qui est en face d'elle. Elle a la possibilité, elle a le devoir même de commencer à prononcer des mesures éducatives avant de prononcer des peines, puisqu'on doit rester dans l'éducation. Mais lorsque la mesure éducative ne suffit plus, lorsque l'infraction est trop grave, lorsqu'il y a réitération et récidive, la justice des mineurs peut être extrêmement sévère. et j'y reviendrai, on peut prononcer des peines très importantes. En tout cas, ce qui est important
de
retenir...
Donc l'accusation de laxisme qui est souvent faite, ou l'association vous paraît parfaitement injustifiée?
Oui, elle me paraît parfaitement injustifiée, mais ce que je peux comprendre, c'est que l'activité des tribunaux pour enfants, comme elle n'est pas publique, comme celle des tribunaux correctionnels, elle échappe à la connaissance du grand public, et donc on ne sait pas quel type de peine peuvent être prononcées. Ce que je peux dire, c'est que quand on regarde les données statistiques du ministère de la Justice, entre 2019 et 2022, par exemple, il y a eu une baisse du nombre d'affaires de délinquance des mineurs d'environ 30%, et néanmoins le taux de poursuite est resté le même. Donc on a continué à appliquer une sévérité identique, alors qu'on avait un nombre de faits portés à la connaissance de la justice qui ont diminué. À Bobigny, par exemple, on a une stabilité de la délinquance des mineurs entre 2022 et 2023, et on a eu une augmentation du nombre de déferments, c'est-à-dire de procédures urgentes pour les jeunes, de plus de 30% entre 2022 et 2023.
Donc, il y a une évolution. Jean-Lémarie.
Deux choses dans ce que vous dites. D'abord, je suis frappé de vous entendre dire que vous notez une stabilité, voire une baisse de la délinquance des mineurs, mais ça va exactement à l'encontre du discours politique des dernières semaines.
Alors, moi, ce que j'ai entendu au niveau du discours politique, c'était qu'il y a un certain nombre d'actes extrêmement violents qui ont été constatés et qui appellent une réponse. Alors, on ne peut pas contester le fait que des actes très violents se sont produits. Moi, j'ai déjà été juge des enfants à Bobigny il y a une vingtaine d'années. Et déjà à l'époque, j'ai constaté qu'il y avait parfois des actes extrêmement violents. La question des rixes entre quartiers existait déjà. La question des meurtres dans le cadre de trafic de stupéfiants existait déjà. Pour la question des trafics de stupéfiants, on est passé à un autre degré aujourd'hui.
Autre degré, donc. Comme Thomas Sauvadet, il y a quelques instants, vous considérez qu'on n'a pas affaire à la même forme de violence?
Alors, ce que je peux constater à Bobigny, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de problèmes de vengeance, de violence dans le cadre de trafic de stupéfiants, avec une délinquance organisée où des adultes viennent embrigader des plus jeunes et les employer dès un très jeune âge. Mais je ne dirais pas, en dehors de l'intervention des réseaux sociaux qui a vraiment changé beaucoup de choses, qu'il y a un changement de nature qui appelle à un changement complet de la réponse à la délinquance des mineurs. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand il y a un certain nombre de faits médiatiques ou de drames qui endeuillent les familles et auxquels on ne peut qu'être très sensible. Je pense que c'est dangereux de vouloir bouleverser complètement tout un système de justice des mineurs qui, au demeurant, a été réformé en 2021 après un long débat.
On va y venir. Je voulais d'abord essayer d'objectiver les choses comme on l'a fait avec vous, Thomas Sauvadet, puisque vous évoquez une évolution de cette violence des jeunes, sans même parler de la réponse pénale pour savoir si elle était adaptée ou pas, sachant qu'elle a été réformée récemment, effectivement. Thomas Sauvadet.
Oui, ce qui me paraît important, c'est la difficulté aujourd'hui que peuvent avoir les institutions policières et judiciaires à travailler dans certains quartiers. Il y a une fermeture qui s'opère dans certains QPV. Pour travailler dans ces quartiers, on voit des agressions entre mineurs. On voit des cas de séquestration et torture qui sont connus, y compris de travailleurs sociaux en délégation de services publics et en mission de protection de l'enfance, et qui sont pas remontés ni à la hiérarchie, ni au juge des enfants. Un commissaire me disait l'année dernière que sur un quartier de l'agglomération qui était considéré comme le quartier où il y avait un taux de délinquance et de criminalité très élevé, c'est là où ils avaient le moins de signalements, le moins de dépôts de plaintes. Donc il y a une forme d'omerta qui s'opère, avec notamment des grosses familles qui sont impliquées dans le trafic, mais qui ont tout un tas d'affiliés qu'on retrouve parfois dans les services municipaux, qu'on retrouve parfois dans des associations. Et donc la liberté d'expression est très limitée, malheureusement, dans certains quartiers.
Muriel Aiglin.
Alors, ce que je peux constater, en effet, c'est que lorsque des adolescents sont victimes d'agressions, très souvent, ils ne veulent pas déposer plainte. Et leurs parents disent également, ben non, on veut pas déposer plainte, ça se fait pas, on le dit pas, et la notion d'omerta, effectivement, peut exister dans certains quartiers, et je le déplore parce que, en fait, c'est avec la notion d'omerta que se développent des systèmes de vengeance privée qui alimentent le cycle de la violence.
Donc ça veut dire qu'on a affaire d'une part à une sous-déclaration et à une autre forme de régulation que la justice pénale dans certains quartiers ? Muriel Aiglin.
C'est tout à fait probable dans la mesure où effectivement on entend a posteriori évoquer des affaires de violence, mais je peux dire également que j'ai déjà vu dans mon bureau des jeunes qui avaient eu un genou fracturé, un doigt coupé et qui m'ont expliqué qu'ils s'étaient coincé le doigt dans une portière de voiture ou qu'ils avaient eu un accident de foot, alors que j'ai appris qu'ils avaient fini par se confier à leur éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse que il s'agissait de vengeance et d'actes de violence graves perpétrés par des personnes impliquées dans du trafic de stupéfiants. Et c'est vrai que on a besoin de pouvoir être davantage présent et inspirer davantage confiance aux jeunes. Ce qui est compliqué, c'est que quand certains veulent s'en sortir, on n'a pas forcément de solution. Notamment le jeune qui s'est cassé le genou, on a cherché pour lui des solutions d'accueil, de placement et de prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, et ça a été compliqué de le trouver. Ou alors on trouve des solutions dans un second temps après un passage en incarcération parce qu'on manque de place. Alors que c'est sorti du quartier, de l'influence du groupe, et quand on arrive à donner des perspectives en termes de formation et de développement à ces adolescents, ils s'en sortent. Et ça fonctionne.
Et oui, parce que Thomas Sauvadès, ce sont donc des jeunes qui, peut-être, n'imaginent pas vivre dans un cadre autre que celui qui est le leur.
Oui, il y a ce processus d'enfermement fait qu'il y a à la fois des jeunes qui veulent absolument en sortir, absolument en partir, et d'autres qui sont dans une sorte de fatalisme, de résignation. Et ce qui est étonnant aussi de voir aujourd'hui, c'est que c'est transmis par les parents, parce que les parents eux-mêmes, parfois, ont grandi dans la rue, avec cette culture de rue, dans le même quartier. Et on observe, et c'est assez nouveau, des cultures familiales, en fait, où les parents transmettent aux enfants une sorte des codes, les codes de la rue, de l'adaptation, en fait, à la loi de la rue, plutôt que des ambitions scolaires ou autres. Donc, il y a cet enfermement sur le quartier.
Par exemple, qu'est-ce que cela pourrait... et donner pour qu'on comprenne.
Concrètement, oui. Alors concrètement, par exemple, c'est une mère de famille dont le frère, le cousin, le père, l'oncle ont été soit tués, soit incarcérés, et qui me dit qu'elle a deux fils. Il y en a un qui est très bagarreur, qui est déjà convoqué par le directeur de l'école, et l'autre qui est plutôt introverti et qui a plutôt une scolarité tranquille. Et elle me dit, je m'inquiète beaucoup pour celui qui a une scolarité tranquille, parce que je pense pas que l'école le sortira du quartier. Et s'il ne sort pas du quartier, avec ce tempérament, avec ce caractère, il sera mangé tout cru dans le quartier. Donc on voit une inversion, en fait, éducative, et on voit des parents, et c'est peut-être aussi ça, Didier Lapéroni, quand il écrivait...
un sociologue.
2006, sociologue bien connu, qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas longtemps, Ghetto Urbain, où il montrait que tous les habitants de ces quartiers-là ne vivent pas dans le ghetto, mais certains habitants développent une forme de vie du ghetto, d'adaptation au ghetto, avec l'idée de ne pas en sortir et de s'y adapter.
Le rôle des réseaux sociaux, Muriel Aiglin, vous qui êtes juge, qu'est-ce qu'il recouvre dans votre quotidien, dans la manière dont ces jeunes agissent, réagissent ?
Alors, je crois que ça permet pour certains une valorisation de certains actes violents ou de la question de l'argent aussi est une question très très présente dans ce que l'on peut voir. Ça peut servir de point de ralliement, de prise de rendez-vous pour des regroupements, notamment dans le cadre de RICS. Et ça entraîne, en tout cas, ça donne une rapidité de mobilisation qui est très importante. On l'a vu pendant les événements violents du mois de juin et juillet 2023, où la question des réseaux sociaux était importante. J'ai même vu des jeunes qui recevaient sur leur smartphone des vidéos d'infractions violentes et dont on pensait qu'ils étaient impliqués dans ces infractions. En fait, ils les avaient simplement reçues, mais ils ont contribué à faire circuler cette violence et ces images. En tout cas, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose de différent et qui change la nature de ce qu'on peut voir par rapport à ce qui existait il y a 15 ou 20 ans. Et je pense qu'il
Donc ça, c'est vraiment une date ou en tout cas une technologie qui provoque des changements sociaux importants pour vous.
Je ne dirais pas qu'elle provoque des changements sociaux importants. Je dirais qu'elle facilite le passage à l'acte. Elle facilite des choses qui existaient déjà, à savoir le phénomène d'entraînement. On sait toujours que les adolescents, ils ont un instinct grégaire, un goût de se regrouper et d'être un peu conforme à ce que font leurs voisins, et les réseaux sociaux accélèrent ce phénomène-là. Et je pense qu'en termes de prise en charge éducative, on devrait se préoccuper aussi de comment, des méthodes, comment on peut répondre à cette question-là, comment on peut accompagner ces jeunes-là, comment on peut leur enseigner l'esprit critique et la capacité à se différencier des autres.
Thomas Sauvadet.
Oui, c'est en termes de rapidité d'action, d'organisation, de caisse de résonance aussi à cette culture de rue. Il y a en fait une sorte d'effet cascade avec les voyous, quelques voyous, souvent une vingtaine, une trentaine, hein, qui sont vraiment au cœur de la voyoucratie du quartier. Autour de ça, on a une cinquantaine d'adolescents, parfois aussi des enfants qui sont présents. Et ils développent, notamment avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, mais aussi par exemple avec certaines chaînes sur Internet comme YouTube, etc. Ils développent des clips, ils filment leur violence. Et c'est toute une industrie culturelle aujourd'hui qui va du rap aux réseaux sociaux, en passant par les clips amateurs, parce qu'aujourd'hui c'est un peu à la portée de tout le monde. Donc on voit, ils mettent les cagoules, ils sortent les fusils à pompe. Alors ils vendent pas des millions de streaming, mais ils peuvent faire 300 000, 500 000 vues, être des petites stars locales. Et on a toute une jeunesse aussi dans les établissements scolaires, aussi par conformisme, qui se conforme à une forme de leadership, puisque en fait ces voyous sont en position de leadership à la fois dans le quartier, mais aussi parfois dans les établissements scolaires, voire même les clubs sportifs, où on a aussi des affaires importantes, notamment dans le foot. Et donc on a des adolescents qui se disent qu'il vaut mieux être d'accord avec eux, proche de ces voyous là et les imiter plutôt que de se différencier ou de s'opposer. Et c'est pour ça que souvent je dis à des sociologues ou à des éducateurs ou à des enseignants, faites attention à la parole publique des adolescents, parce que quand vous avez un voyou qui dit voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il ne faut pas dire, vous avez les autres derrière qui s'alignent. Donc c'est difficile de faire du débat, c'est difficile de faire l'éducation, surtout si l'adulte n'est pas conscient du phénomène.
La dernière réforme en date.
Pour répondre, je pense qu'il est important de proposer d'autres modèles aux jeunes, de permettre de mettre en avant des parcours de réussite. Et c'est aussi le travail des éducateurs et de la prévention que de faire porter un autre discours et d'occuper l'espace public et du discours public avec d'autres choses que ce que vient de décrire Thomas Sauvadet. Parce que ça donne l'impression qu'on vit dans des coupes-gorges et que tout est perdu. Or, ça n'est pas vrai. C'est vrai que quand on se déplace dans un collège ou dans un lycée et qu'on accompagne des expositions comme l'exposition 13-18 pour les 13-18 ans ou l'exposition Moi, jeune citoyen pour les 9-13 ans en école primaire et en collège, on voit bien qu'il y a une curiosité des jeunes pour connaître le système juridique dans lequel ils évoluent, une volonté de comprendre quelles sont les règles, quel est le droit, et je pense que c'est important de pouvoir en parler et de rappeler aussi que le droit et la justice, ils sont certes là pour sanctionner, ils sont aussi là pour apporter des réponses qui permettent de réparer les dommages commis, mais aussi les jeunes qui sont abîmés par ce qui se passe dans les quartiers.
J'allais évoquer avec vous, Muriel Aiglin, la réforme de la justice des mineurs qui a été faite en 2021. Gabriel Attal a évoqué différentes pistes. Ces pistes vous paraissent-elles judicieuses pour tenter donc de lutter contre des fléaux, contre une situation finalement sur laquelle vous évoquez effectivement un certain nombre d'évolutions douloureuses et tristement regrettables?
Alors, tout d'abord, je voudrais dire que la question de la violence des jeunes et du fait que les jeunes seraient de plus en plus jeunes et de plus en plus violents, elle est récurrente. En fait, moi, j'ai commencé à être juge des enfants à la fin des années 90. On en entend déjà parler. Dans les années 2000 également, dans les années 2010 également. Et ça a conduit à un certain nombre de réformes à l'époque de l'ordonnance de 45, en 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014 et 2016. C'est un peu vertigineux, mais En 2019, quand le travail sur la création du code de la justice pénale des mineurs a commencé, on a mis en avant le fait qu'il y avait des réformes sans arrêt, les unes qui succédaient aux autres. Et là, en 2019, en fait, les choses ont été posées de manière un peu plus apaisée et plus calme. Il y a eu un débat public assez important et un texte assez équilibré qui a été élaboré, qui a d'ailleurs suscité des critiques comme étant trop sévères, puisqu'il permet d'apporter des réponses extrêmement fermes et extrêmement rapidement à la délinquance des mineurs. Et aujourd'hui, je pense que la première chose importante, c'est de permettre de l'appliquer. Et d'ailleurs, j'ai noté dans les propositions de Gabriel Attal qu'il y a un certain nombre de choses qui existent déjà dans la justice des mineurs. Par exemple, les mesures d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans, elles existent déjà sous la forme de mesures de réparation. Et d'ailleurs, je dirais qu'il y a eu une petite modification législative le 20 novembre 2023 pour permettre leur développement pendant le cours du procès pénal des mineurs. L'accueil de nuit pour les mineurs, eh bien, ça fait des années qu'on fait du placement à la protection judiciaire de la jeunesse et dans des structures associatives qui encadrent les jeunes de jour, de nuit, et y compris le week-end et les vacances. Et la difficulté, c'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de place et que les juges des enfants appellent d'année en année à la création de places supplémentaires. Mais pour l'instant, il n'y en a pas suffisamment. Parfois, il y a des structures qui ferment et d'autres n'ouvrent pas. En tout cas, on est en difficulté pour, par exemple, sortir des jeunes des quartiers et leur apporter une prise en charge suffisante. La composition pénale qui permet d'apporter une réponse pénale sans intervention du juge, elle existe déjà depuis des années et dès l'âge de 13 ans. Et elle permet d'ores et déjà d'effectuer des stages, de prononcer un certain nombre d'interdictions, de faire aussi pour les jeunes à partir de 16 ans du travail non rémunéré, une sorte de travail d'intérêt général pré-judiciaire. Et je dirais même qu'existent en plus d'autres choses, des alternatives aux poursuites par le parquet. En tout cas, tout le panel de la réponse pénale a été développé par ce code de la justice pénale des mineurs. Et ce qui est important, c'est pas de créer de nouvelles mesures et des nouveaux textes, c'est de donner les moyens de fonctionner avec les structures et le nombre d'éducateurs qui puissent venir au soutien des jeunes et densifier la prise en charge telle qu'elle existe aujourd'hui.
Jean Lébary.
Mais le discours politique à droite, mais aussi maintenant dans la majorité, avec les récentes déclarations du Premier ministre, pointe d'abord un problème culturel. C'est la fameuse expression, la culture de l'excuse. C'est ça qu'il faudrait combattre. Comment l'accueillez-vous ?
Alors, en fait, la culture de l'excuse, je dirais que c'est la petite musique qui circule dans les oreilles de tout le monde ou dans les oreilles des jeunes dans les quartiers disant « ben puisqu'ils sont mineurs, ils ne risquent rien ». Or, c'est faux. C'est complètement faux, puisque dès l'âge de 13 ans, on peut aller en prison. Et dès l'âge de 16 ans, même s'il y a une atténuation de la peine pour minorité, le tribunal peut l'écarter et appliquer des peines extrêmement sévères.
C'est la fameuse excuse de minorité, Muriel Aiglin. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, ce qu'on appelle excuse de minorité, en réalité, la loi indique que c'est une atténuation de la responsabilité d'un mineur en raison de sa minorité. C'est un principe constitutionnel en France, qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel en 2002. Et c'est aussi un principe que met en avant la Convention internationale des droits de l'enfant. En fait, ça tient simplement compte de ce que je disais au début de mon intervention, à savoir que le cerveau d'un adolescent n'est pas le même que le cerveau d'un adulte et qu'il a besoin d'une adaptation, qu'il n'a pas la même responsabilité à 13 ans qu'à 18 ans. Et alors, concrètement, entre l'âge de 13 ans et l'âge de 16 ans, lorsque on commet un délit, on risque une peine dont le maximum est la moitié de ce que risque un adulte. Un exemple, le vol est puni par la loi française de 3 ans d'emprisonnement au maximum. Quand on a entre 13 et 17 ans, on risque au maximum 1 an et demi d'emprisonnement. Ça ne veut pas dire qu'on met 1 an et demi d'emprisonnement pour tous les jeunes qui commettent des vols, bien évidemment. Et entre l'âge de 16 et jusqu'à la majorité, on peut écarter cette atténuation de peine pour minorité, soit en raison de la personnalité, soit en raison des circonstances de fait, de la gravité des faits. Sur la personnalité, je pense par exemple à des grands adolescents qui sont impliqués dans des trafics de stupéfiants avec un rôle moteur dans l'organisation, ce qui peut exister. C'est plutôt rare, mais ça existe. Ou des personnes qui ont déjà été condamnées à plusieurs reprises, qui ont bénéficié de prises en charge éducatives. Et sur la gravité des faits, je pense en matière criminelle, où les cours d'assises régulièrement écartent l'atténuation de peine pour minorité. Je pense que ça n'est pas une piste à creuser, sous peine de nous trouver en infraction avec les principes constitutionnels et avec la Convention des droits de l'enfant.
Merci Muriel Aiglin. Je rappelle que vous êtes présidente du tribunal pour enfants de Bobigny. Merci Thomas Sauvadet, sociologue. On vous doit notamment Voyoucratie et Travail social enquête dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville aux éditions du Croquant.